Radio Prague, les informations.
Bienvenue sur Radio Prague. Prague se prépare à la première marche des fiertés. La Banque nationale tchèque revoit à la baisse sa prévision du déficit budgétaire. 40 soldats tchèques qui viennent de rentrer des missions en Afghanistan et au Kosovo ont été décorés par le ministère de la Défense. Dans le cadre du festival gay et lesbien Prague Pride, un débat de spécialistes sur le traitement du VIH-Sida a été organisé ce vendredi dans la maison pragoise de la Lumière qui prend en charge les malades. Le débat s'est déroulé en présence des représentants des centres thérapeutiques, du ministère de la Santé, des compagnies d'assurance maladie, de médecins et de psychologues. D'après Jamila Stehlikova, chargée du programme national VIH-Sida, le risque de contraction du virus chez les homosexuels tchèques est 200 fois plus élevé que chez le reste de la population. Seuls 30% des gays tchèques utilisent le préservatif. La prévention du VIH dans la communauté homosexuelle est un des objectifs du festival Prague Pride qui a débuté mercredi dernier. Son point d'orgue sera la tenue de la toute première marche des fiertés samedi dans le centre-ville. Quelques 7000 participants et participantes sont attendus samedi midi sur la place de la République. Plusieurs manifestations de protestation contre cette marche sont également prévues par les extrémistes de droite du Parti ouvrier de la justice sociale ainsi que par les jeunes chrétiens démocrates. Plus de 300 policiers veilleront au bon déroulement des manifestations. La Banque nationale tchèque a revu à la baisse sa prévision du déficit budgétaire de la République tchèque pour cette année. Selon cette prévision, le déficit ne devrait pas dépasser 3,8% du PIB. La prévision précédente comptait avec un déficit de 4%. D'après les estimations de la banque, en 2012, cet indicateur devrait être inférieur à 3%. 40 soldats tchèques qui viennent de rentrer de mission en Afghanistan et au Kosovo ont été décorés ce vendredi à la base aérienne de Namištinat Oslavo, en Moravie du Sud, par le vice-ministre de la Défense, Mikhail Horbata. Il s'agissait principalement des pilotes qui viennent d'effectuer une mission de 4 mois à Kaboul, où ils ont participé à la formation de leurs collègues afghans. Deux pilotes tchèques ont été légèrement blessés au cours de ces exercices. L'année dernière, au total, 2000 soldats de l'armée tchèque ont participé à des missions à l'étranger. Le contingent tchèque en Afghanistan compte actuellement 700 soldats. La chanteuse Hanna Hegerova a décidé de mettre un terme à sa carrière, réfutant que ses décisions soient liées à des problèmes de santé, et elle a déclaré qu'elle voulait en finir avec le stress des tournées fatigantes. Âgée de 80 ans, elle avait annulé cette semaine la tournée automnale prévue pour son anniversaire. Chanteuse d'origine slovaque à succès, elle a interprété en tchèque de nombreuses chansons françaises d'Edith Piaf ou de Jacques Brel. L'an dernier, elle a sorti un album qui a été très remarqué par la critique. Le joueur tchèque Tomáš Berdych s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi de tennis de Montréal en battant le croate Ivo Karlovic 6-3, 7-6. En revanche, la championne de Wimbledon Petra Kvitova a été éliminée à Toronto par l'Allemande Andrea Petkovic 1-6, 2-6. Côté météo, samedi, jour de la fête des Arena en République tchèque, le temps sera nuageux avec quelques percées de soleil. De faibles pluies sont prévues un peu partout. Les températures seront comprises entre 21 et 25 degrés pour les maximales. Dimanche, le temps devrait être plus ensoleillé avec les températures maximales de 27 degrés. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Hrozinková. La suite du programme avec Václav Richter.
Faits et événements en République tchèque.
Les églises tchèques acceptent le projet de restitution de leurs biens qui leur a été présenté par une commission gouvernementale. 11 artistes de plusieurs pays présentent leurs créations au Karlin Studio dans le cadre de l'exposition intitulée « Chleb a soul, le pain et le sel ». La deuxième partie de notre émission sera réservée à la rubrique « Miroir de la société » consacré cette fois-ci à la Gay Pride de Prague. Merci de rester fidèle à Radio Prague et bonne écoute. Les églises tchèques ont accepté le projet de restitution des biens confisqués et de compensation financière pour les biens ne pouvant pas être restitués. C'est un pas important dans le processus de règlement des rapports entre l'État et les églises, processus qui se poursuit pratiquement depuis la chute du régime communiste en 1989. D'après le projet, acceptable pour toutes les parties concernées, l'État restituerait aux églises et aux mouvements religieux 56% de leurs biens et leur verserait progressivement aussi une compensation de 59 milliards de couronnes, quelque 2,36 milliards d'euros. Cependant, les églises ne recevront pas immédiatement cette somme, mais les versements s'échelonneront sur une période de 30 ans. La loi sur le règlement des rapports entre l'État et les églises pourrait entrer en vigueur en 2013. Le ministre de la Culture, Jiří Besser, se montre optimiste en ce qui concerne l'accueil qui sera réservé à la loi au Parlement.
J'espère que nous serons capables de nous mettre d'accord au Sénat et à la Chambre des députés pour considérer que cette façon de régler les problèmes entre l'État tchèque et les églises est le meilleur projet que nous soyons en mesure de préparer et que nous obtiendrons pour le règlement le soutien de 101 députés.
L'archevêque de Prague et primat de l'Église catholique tchèque Dominik Duka salue ce consensus qu'il considère comme un chemin vers l'indépendance des églises. Il constate que c'est l'Église catholique romaine qui sera le principal bénéficiaire de la réalisation de ce projet.
Les biens disponibles sont répartis de cette façon parce que c'est la majorité de ces biens appartenaient à l'Église catholique romaine. Il existe bien sûr une certaine quantité de biens non catholiques et ceux de la Fédération des communautés juives. La part de l'Église catholique romaine représente donc 80% des biens concernés et il reste 20% pour les autres confessions.
L'État devrait restituer aux églises un peu plus de la moitié de leurs biens confisqués sous le communisme, édifices, terrains agricoles, forêts, étangs, etc. L'objectif de la loi est de parvenir à une indépendance économique des églises et des mouvements religieux. À l'heure actuelle, l'État verse aux églises annuellement 1,5 milliard de couronnes, quelque 60 millions d'euros, mais les biens confisqués rapportent 4,5 milliards de couronnes, 180 millions d'euros. Pour le président du Conseil œcuménique des Églises, Joël Rummel, le projet gouvernemental est acceptable, bien qu'il le considère comme quelque peu désavantageux pour les Églises non catholiques. Il rappelle qu'il faudra encore discuter de la durée de la période transitoire pendant laquelle les Églises recouvreront leur indépendance économique.
Déjà en 2008, on comptait sur une période transitoire de 20 ans. Cette période resterait donc transitoire aussi dans le nouveau projet. Pendant ces deux décennies, sera progressivement réduit et finalement achevé le financement des églises par le budget de l'État. Mais en ce qui concerne la durée, l'avis de la commission gouvernementale et celui de la commission ecclésiastique divergent.
La commission gouvernementale se réunira avec les représentants des églises de nouveau le 25 août. C'est au cours de cette rencontre que doit être définitivement fixée la durée de la période transitoire. Les Carlin Studios, grand espace d'exposition et d'art contemporain, accueillent jusqu'au 11 septembre une exposition d'une dizaine d'artistes d'horizons différents. Intitulée Chleb à Soul, elle a été montée par l'artiste française Amanda In en collaboration avec Michal Novotny. Elle a décrypté pour Anna Kubishta le titre de l'exposition.
L'exposition s'appelle Chleb à Soul, qui veut dire du pain et du sel. À l'origine, c'est une tradition pour accueillir les hôtes qui viennent vous rendre visite. Et on a utilisé cette expression pour deux raisons. La première, c'est que c'était une façon d'inviter les visiteurs, de les recevoir, mais aussi parce que le pain et le sel nous semblaient être des denrées de première nécessité.
C'est des denrées, et puis c'est des denrées brutes aussi, très simples.
Voilà, très simples, très brutes, très basiques. Et donc c'était une belle façon, à notre avis, d'à la fois inviter les visiteurs et d'introduire le sujet de l'exposition, qui est, si je peux le résumer comme ça, alors qui à l'origine prend sa source dans le contexte où l'exposition se déroule, puisque nous sommes à Carlin Studio, qui jusqu'en 2005 était une usine de fabrication de moteurs, et qui a été transformé à partir de 2005 à l'initiative de Futura en espace d'exposition à but non lucratif.
C'est un très très grand espace, hein, il faut préciser. Hein.
Voilà, la galerie d'exposition principale fait entre 3 et 400 mètres carrés. Il y a en plus une galerie dans l'entrée qui s'appelle Entrance et ça héberge, c'est un complexe d'une trentaine d'ateliers d'artistes. Voilà, des artistes tchèques mais aussi des artistes en résidence accueillis par Futura à Prague et qui disposent d'un atelier pendant la durée de leur résidence. Voilà.
Alors ici jusqu'au 11 septembre, hein, il faut préciser, voilà. Donc cette exposition Clap à Soul est organisée par toi, Amandine. On a déjà eu l'occasion de se voir plusieurs fois pour des interviews et également par Mikhail Novotny qui est l'autre commissaire de l'exposition.
Exactement, c'est une collaboration.
Vous exposez donc plusieurs artistes, des artistes français, tchèques, mais également australiens et estoniens.
Voilà, exactement. C'est une exposition de groupe qui rassemble 11 artistes. Je ne vais peut-être pas vous faire toute la liste, mais pour donner quelques exemples, Peter Fitzpatrick ou Hania Lughud d'Australie, mais aussi Jean-Luc Villemoute pour la France, Édouard Boyer, Baptiste de Bombourg et Didier Courbeau. Nous exposons aussi le travail d'un Italien qui s'appelle Antonio Rovaldi et de Ivar Skravlej qui vient de Riga. Mm-hmm.
Voilà. Comment est-ce que justement toi et Mikhail Novotny avez choisi en fait ces artistes, selon quels critères d'une certaine façon? C'est parce que ces artistes avec lesquels tu as déjà collaboré ou c'était à cause de leur travail qui justement cadrait avec le thème de l'exposition?
Tu sais que je ne suis pas commissaire d'exposition, mais artiste, même si ça m'arrive parfois d'organiser des expositions. Cette exposition, elle s'est vraiment présentée comme une nécessité d'expression, non pas sous la forme d'œuvre, enfin de la réalisation d'œuvre pour moi qui suis artiste, mais d'un rassemblement de pièces qui... D'une part, jalonne mon parcours artistique, parce que ce sont des rencontres importantes. Alors, par exemple, Jean-Luc Villemoute a été mon directeur de recherche et chef d'atelier à l'École des Beaux-Arts de Paris, où j'ai étudié. Mais Antonio Rovaldi a été un artiste avec qui j'ai exposé à Rome en 2006, dont j'ai revu le travail en 2008 pour une exposition personnelle, où il présentait la vidéo « Job is my danger ». Qui est la vidéo qu'on expose ici. Ouais. Ça fait une espèce de réseau emmêlé dans tous les sens. Finalement, c'est assez simple. C'est les gens qu'on rencontre dans son parcours et qui marquent le coup parce qu'ils ont une pratique extraordinaire et une générosité sur le plan humain.
Suite à fin de cet entretien, un interview avec l'artiste Baptiste de Montbourg dans une prochaine rubrique culturelle. Pendant 4 jours, Prague accueille un festival consacré aux minorités sexuelles, gays, lesbiennes, transsexuelles et transgenres. Il culminera ce samedi par la Prague Pride, premier défilé des fiertés jamais organisé dans la capitale tchèque. L'initiative est soutenue par le maire de Prague, Bohuslav Svoboda, et par 11 ambassadeurs européens et les ambassadeurs des États-Unis et du Canada. De notre côté, la manifestation a suscité la désapprobation du chef de l'État Václav Klaus et de certains hauts fonctionnaires et politiciens tchèques. L'événement et la controverse qu'il a déclenchée ont richement alimenté la presse nationale de cette semaine. Nous avons également retenu un article qui se penche sur les activités anti-islamiques tchèques. La rubrique a été préparée pour vous par Alena Gebertova.
Miroir de la société à la lumière de la presse.
Le malheur est d'abord venu par Peter Hayek, un des proches collaborateurs de Václav Klaus, à la chancellerie présidentielle. D'après ses déclarations pour le serveur de la revue Parlament Nihilisté, la Gay Pride est la démonstration politique d'un monde dans lequel la famille classique ne joue plus aucun rôle et dans lequel le monstre du multiculturalisme dévore les racines culturelles et les traditions nationales, d'un monde dans lequel les déviations, sexuelles ou autres, sont élevées au rang de vertu, la normalité au rang de norme et la destruction de la société au rang de saint progrès.
Ces propos ont provoqué une vive polémique, considérée comme homophobe et inacceptable par une grande partie de l'opinion publique, des médias et des représentants politiques. Toutes tendances confondues, le président de la République a quant à lui soutenu son chancelier adjoint en dénonçant le parrainage accordé à la manifestation par le maire de Prague. Il a en outre déclaré qu'il y a lieu de tolérer l'homosexualité, mais pas l'homosexualisme.
L'utilisation de ce dernier terme inédit a soulevé plus d'une interrogation dans la presse.
Le terme homosexualisme est bizarre. On ne le retrouve pas dans le dictionnaire, on ne le trouve pas non plus sur Wikipédia.
Écrit Petr Hanzeig dans le quotidien économique Hospodarské noviny et d'ajouter.
L'homosexualité a été décriminalisée il y a quelques décennies encore pour être finalement rayée de la liste des maladies. Mais même aujourd'hui, les homosexuels doivent lutter contre les préjugés car la tolérance à l'égard de cette minorité demeure très fragile. Désormais, les extrémistes qui voudront s'en prendre aux tarlouses pourront le faire sous le prétexte intellectuel de lutte contre l'homosexualisme.
Point n'est besoin de craindre Klaus, mais le klausisme est le titre d'un texte rédigé par le journaliste Karel Vyždala, auteur du très connu interrogatoire à distance livre d'entretien avec l'ancien président et dramaturge Václav Havel, écrit dans les années 80. Dans son article, il s'intéresse au soutien que le château, soit le président, n'hésite pas à accorder à certaines personnes aux caractéristiques ou au passé douteux et qui gravitent dans les cercles du pouvoir.
Il s'agit notamment de Ladislav Batora, chef de l'initiative souverainiste Dost, ancien candidat du Parti national, un parti d'extrême droite, et par ailleurs un des farouches critiques de la Prague Pride. Aujourd'hui haut fonctionnaire au ministère de l'Éducation, cet homme de conscience, bon catholique, conservateur de la vieille école, comme le décrit le ministre Josef Dobesch, aurait été lié à des associations poursuivies par les services de sécurité de l'État pour leur soutien actif à l'antisémitisme et au fascisme. Karel Vyždala remarque.
Diplomatiquement parlant, on peut dire que le château a tendance à soutenir l'extrémisme de droite, sous prétexte de liberté de la parole, laquelle cependant, comme on le sait, est toujours géographiquement et historiquement conditionnée et ne peut donc jamais être absolue. Riche de sa récente expérience avec le national-socialisme de Hitler, l'Europe applique donc d'autres restrictions de la liberté de la parole que par exemple les États-Unis. En Europe, toute défense du nazisme est inacceptable. Le danger du klausisme consiste donc dans le fait que celui-ci n'accepte pas ce contexte culturel et qu'il profite des thèmes controversés pour mettre en relief leurs étranges acteurs qui gagnent ainsi une trop grande place dans l'espace public.
Collaborateur régulier du quotidien Lidové Noviny, Miroslav Macek, ancien haut fonctionnaire et représentant politique de droite, a publié dans les pages du journal un article intitulé « Ce ne sont pas les homosexuels, mais leur arrogance qui contrarie ».
Dans cet esprit, il écrit, nous citons.
Si les homosexuels sont acceptés par la population, c'est en revanche une certaine arrogance avec laquelle ils veulent démontrer, avec le soutien des défenseurs fanatiques des minorités, que l'homosexualité est quelque chose de mieux, quelque chose qui est digne d'admiration, de fierté, voire d'orgueil, et qui mérite d'être manifesté de manière ostentatoire. C'est donc cette arrogance qui déplaît. Nous autres, qui ne l'acceptons pas, sommes étiquetés comme homophobes.
Ce qui est pire encore aux yeux de Miroslav Macek, c'est que les gens qui n'acceptent pas cette différence manifestée de façon spectaculaire et qui critiquent leur soutien de la part des autorités sont accusés d'intolérance, de xénophobie, d'obscurantisme, d'extrémisme de droite et d'autres crimes contre la société multiculturelle.
Dans une note publiée par le quotidien Mladá Fronta Dnes, le journaliste chrétien conservateur Michal Semin va plus loin encore en signalant au sujet de la Prague Pride le fait que les hauts représentants des partis ODS et Top 09 en tête avec le maire de Prague aient levé le drapeau de cette révolution éthique, morale et sociale est une tragédie de la politique de droite tchèque. Le patronage qu'ils ont accordé à la Prague Pride témoigne de l'absence de politique conservatrice.
Et de conclure,
certains sénateurs demandent à la liquidation politique de Ladislav Batora, prétendant que sa présence au ministère de l'Éducation légitime l'extrémisme. C'est une honte. Ils négligent que les véritables extrémistes sont ceux qui cherchent à démonter les traditionnelles valeurs culturelles et de civilisation.
Le politologue Bohumil Doležal resitue, pour sa part, dans les pages du journal Lidové Noviny, le festival Prague Pride, dans le contexte des émeutes qui viennent d'affecter certaines villes en Grande-Bretagne. Il écrit.
La situation de départ dans les deux pays est certes différente. Les participants au festival de Prague veulent se faire voir et faire valoir leurs droits. Ils se font remarquer avec insistance et avec une certaine hystérie,
Mais c'est ce que les minorités ont l'habitude de faire, surtout celles qui font l'objet d'ostracisme. La majorité civilisée, elle, l'accepte avec indulgence. Il serait donc absurde d'imaginer dans ce contexte des pillages ou des émeutes. Ce qui inquiète cependant, c'est de voir à quel point la situation autour de la Prague Pride s'est rapidement enflammée. Peut-on s'attendre finalement à une barrière insurmontable entre la minorité et la majorité ? Comparé à ce qui se passe en Angleterre, notre situation est bonne. Force nous est cependant de constater que nous aussi, nous avons entamé notre descente.
Les Tchèques ont peur des musulmans, en dépit du fait que ces derniers soient très peu nombreux, constate dans une de ses récentes éditions l'hebdomadaire Respect. Dans un article qui s'est penché sur le phénomène, nous pouvons lire.
D'un point de vue statistique, la Tchéquie n'a aucun problème avec les musulmans, notamment à cause du fait que, comparé à la situation dans d'autres pays de l'Union européenne, il n'y en a pas beaucoup. Leur nombre est évalué à près de 11 000 personnes. En plus, il ne s'agit pas de travailleurs immigrés pauvres, mais avant tout de médecins, d'hommes d'affaires et d'ingénieurs. Pourtant, la peur des musulmans se répand même au sein de la population tchèque.
Pour illustrer les craintes et les préjugés d'une grande partie de la population tchèque, le journal cite Vladimir Derner, vice-gouverneur de la région de Hradec Králové, ville qui s'était opposée contre la construction d'une mosquée sur son territoire et qui dit:
pour l'instant, les musulmans se tiennent en retrait, mais dès qu'ils seront assez nombreux, ils se serviront de moyens démocratiques pour liquider notre démocratie.
Les activités anti-islamiques se déroulent sous forme de polémiques et de discussions sur Internet. Une occasion pour leurs participants de proposer différentes solutions, dont Respect cite « une politique d'immigration rigoureuse à l'expulsion de musulmans s'opposant activement à l'ordre démocratique ». Ou encore, celle proposant l'expulsion des musulmans vers un territoire suffisamment large, en dehors des nations européennes.
Pour défendre leur débat sur Internet, les activistes anti-islamiques tchèques se réfèrent à la liberté de parole, signale le journal qui rappelle dans ce contexte le rôle néfaste des blogs anti-islamiques qui ont précédé la récente tragédie norvégienne. En conclusion, il écrit:
les adversaires tchèques de l'islam refusent une telle argumentation, condamnant l'acte de Anders Breivik comme celui d'un individu déséquilibré. En ce qui concerne leur croisade contre l'islam, ils veulent bien la poursuivre.
C'était donc la rubrique Miroir de la société, préparée pour vous par Alena Gebertova. Merci de votre attention et de votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos programmes sur www.radio.cz/fr.